pourquoi la source, la base qui est commune à chacun d'entre nous, s'exprime-t-elle avec autant de diversité de... Il y a quelque chose qui est difficile à cerner, à palper.
Pourquoi pas ? Elle est infinie potentielle. Elle s'exprime de milliards de manières différentes simultanément. Pourquoi demander pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on se demande mais pourquoi ?
Parce qu'on veut comprendre.
Pourquoi est-ce qu'on veut comprendre ? Est-ce que regarder la multiplicité et la merveille de la nature ne suffit pas?
Si, mais c'est dans une démarche, comme tu disais tout à l'heure, un engagement dans la recherche de la vérité, elle passe par tout un tas de questionnements. Pourquoi? C'est incontournable. Partie du mental qui nous aide quand même à réaliser qu'on est ce qu'on est.
Ah bon?
Le côté intellect, ça fait partie du mental, mais c'est un peu ce qui nous amène aussi à aller à la rencontre de notre vraie nature. S'il n'y avait pas le mental, il n'y aurait peut-être pas la recherche de cette vérité.
Ce n'est pas le mental.
Ce serait la vérité.
Voilà. C'est le fauteur de troubles qui cherche à trouver la solution.
C'est un peu ça, oui.
J'ai peur que ça ne sème encore plus de troubles qu'autre chose.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est incontournable.
Ok, tu as l'impression que c'est incontournable. Est-ce que c'est vraiment incontournable? Est-ce que réellement on est obligé de trouver des réponses à toutes ces questions?
Ben, dans la perspective d'un positionnement, oui.
Est-ce qu'il y a besoin de se positionner pour réaliser qu'il n'y a pas de monde? Donc le monde est illusoire. Rien prouve ça, ou est-ce que c'est écrit? Donc, pourquoi aller dans une direction que tu ne sais pas être la bonne? Tu crois qu'il faut que tu aies des réponses à toutes tes questions pour enfin voir? Non, pour voir. Pour les yeux. À la seconde où les yeux s'ouvrent, il y a vision. Il n'y a pas besoin qu'il n'y ait aucune réponse apportée à aucune des questions qui puisse apparaître dans la conscience.
Oui, disons que c'est une habitude du mental de faire des commentaires, quoi.
Bien sûr, oui.
Mais on peut le voir, effectivement, on peut le voir.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et à partir du moment où tu vois, tiens, mais ça pose une question. Tiens, mais il y a une question qui apparaît. Est-ce que cette question est agrippée et que ça devient toi qui a un fond sensible? Il faut vraiment que je sache, tiens, en fait, pourquoi c'est comme ça? Ah, puis ça va m'aider à comprendre et enfin à réaliser qu'il n'y a pas de mots. Tout ça, c'est des pensées. Elles ont besoin d'être crues? Non, ce sont des pensées. Donc, est-ce qu'elles sont agrippées? Est-ce qu'il y a identification à ces pensées? Ou est-ce que simplement il y a un regard porté sur ce qui apparaît au sein de la conscience? Ah tiens, il y a des pensées qui apparaissent. Ah tiens, il y a une question qui apparaît. Et comment ça vit en moi, une question qui apparaît? Comment ça vit en moi, les pensées, quand elles apparaissent? Telle pensée qui apparaît.
Je crois que c'est ce travail-là, oui, que j'aimerais commencer à entreprendre. Oui. Effectivement, c'est bien plus intéressant.
Oui, mais dans ce cas-là, il n'y a jamais de réponse apportée aux questions. Les questions s'effondrent.
dire d'être plus axé sur la sensation que ça provoque en moi, ce questionnement, c'est ça?
Par exemple.
Plutôt que la réponse à la question elle-même, quoi. Ça parle de mon importance.
C'est regarder ce qui arrive. C'est toujours la même chose. Bon, et en même temps, comme je disais hier, c'est le regard qui regarde. C'est pas moi qui regarde, il n'y a pas de moi. C'est le regard qui regarde. C'est regarder ce qui arrive. Et quand je dis regarder, ça pourrait être écouter, ça pourrait être avec, ça pourrait être réalisé, constaté, peu importe le mot précis, en plus il le change d'une fois à l'autre. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe en ce moment, enfin sans la question, ah tiens il se passe ça, ah tiens il arrive ça, ah tiens. Voilà. Et simplement être avec ce qui arrive. Ne pas essayer d'en faire quelque chose. Le plus souvent, il y a saisi et on essaye d'en faire quelque chose. Là, l'idée, problème. Et alors, ah, problème égale trouver une solution. Comment je vais faire pour trouver la solution? Quoi faire? Cherchons la solution. Appliquons la solution. Là, tout de suite, il y a boum, mise en mouvement. Dans le sens de faire quelque chose pour régler un problème, comprendre, enfin, etc.
C'est
avec l'idée. J'aime pas bien le mot mental, parce que le mot mental, c'est quoi? C'est juste un ensemble de pensées. Ça ne peut que perpétuer le mécanisme. Jusqu'au jour où il va s'arrêter de lui-même. Mais ça alimente peut-être l'idée d'un moi, on pourrait dire, tu vois. L'idée de la réalité d'un moi. Parce que c'est moi qui vais chercher, c'est moi qui vais comprendre. Et grâce à ça, je vais aller quelque part. Alors que juste en constatant, ah tiens, il y a une pensée qui apparaît. Ah tiens, il y a l'idée d'un problème qui apparaît. Ah tiens, il y a une sensation qui apparaît. Ah tiens, il y a une émotion qui apparaît. Ah tiens, il y a un souvenir qui apparaît. Ah tiens, il y a un désir qui apparaît. Et être avec. C'est-à-dire le regarder, constater ce qui se passe dans le corps, au niveau du mental, parce que les pensées, il y en a d'autres qui s'associent à la première, enfin, etc. Ou on se met à parler, ou juste être avec, constater ce qui se passe, être avec. Un peu comme le témoignement de ce qui arrive. Et attentif, etc. Ça dépendra des fois, parfois ça peut être plus embrasser, prendre dans ses bras. Parfois c'est plus constater, d'une façon plus neutre. Ça peut changer. Mais surtout être là avec ce qui se produit, quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Parce que peut-être il y a un mouvement qui se produit et une action qui se met en place. Ben, être avec l'action. Pareil. Ah tiens, ça se bouge. Ah tiens. Ah tiens, ça crie. Ah tiens, ça pleure. Ah tiens, ça rit. Ah tiens, ça, peu importe. Ah tiens, ça va à tel endroit. Ah tiens, ça fait telle chose. Questionner à chaque fois, enfin à chaque fois c'est pas possible, mais autant de fois que ça vient, que l'idée vient, mais est-ce qu'il y a un moi qui le fait? Est-ce qu'il y a un moi qui pense? Est-ce qu'il y a un moi qui ressent ça? Est-ce qu'il y a un moi qui agit? Est-ce qu'il y a un moi qui a choisi? Tu vois? Et avec ça. Ah ben je sais pas. Ah ben j'en vois pas. Surtout, je dirais, regarder les pensées qui nous entraînent. Celles qu'on croit vraies et qu'on suit sans regarder, sans faire attention à ce que c'est vrai ou pas. Tu vois. Et parmi celles-ci, bien sûr, il y a tout ce qui est de l'ordre de la démarche spirituelle. mon Dieu, etc. Toutes celles qui sont associées à l'idée d'un moi qui va aller quelque part, qui va réussir quelque chose, qui est responsable de ce qui se passe, toutes ces choses-là. Ça tous.
Oui.
Tiens, c'est comme une sorte de jeu pour la conscience de. S'observer elle-même quelque part.
La vie est un jeu, tout est un jeu, tout est un jeu.
Ça, c'est difficile à admettre.
C'est une apparition. Au départ, tu peux considérer que c'est un jeu comme un jeu dans un mécanisme.
Il y a l'impression d'équilibre dans l'univers quand même. Il y a...
Bien sûr.
Il y a même presque de la magie, quoi.
Bah, évidemment.
C'est ça qui nous porte.
Mais tu es cette magie même.
De bon moi.
C'est pas le moi qui est la magie même. Enfin, c'est magique aussi. Comment est-ce qu'on peut croire à ça? Ce qui est la magie même. Déjà fondé sur l'idée du temps, du temps qui passe. Pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait un passé, un présent, un futur. C'est-à-dire qu'apparemment, au sein de l'existence, il y a évolution, puisqu'il y a un passé, un présent, un futur. En réalité, du point de vue de ce qui est, le temps est une parfaite illusion qui apparaît au sein de ce qui est. Tout arrive au même instant qui est hors temps. De ce point de vue-là, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Passé, présent, futur, tout arrive au même instant. Se répète tout d'un coup. Enfin, se répète, ça ne veut même rien dire, se répète. Tout est là tout le temps. Et rien n'est là jamais. C'est la même chose. On ne peut pas comprendre, le mental ne peut pas comprendre ça.
Oui, parce que la temporalité, elle naît du mental lui-même. C'est le mental qui fractionne le temps.
Elle est dans l'ordre de l'existence. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un mental pour qu'il y ait un temps? Je ne sais pas. Et c'est bien pour ça que venir à ces réunions ou pas venir, c'est pareil quelque part. C'est pour ça que vous ne pouvez pas ne pas venir, vous ne pouvez pas ne pas venir. Enfin, on a l'impression de choisir d'aller ici et là, faire telle chose et tout. C'est pas vrai, c'est ce qui arrive. Et mais personne n'y peut rien, c'est juste ce qui arrive. Et quand c'est vu, c'est juste un grand éclat. Pour moi, c'est juste un grand éclat de rire. On croit qu'on fait quelque chose. Mais c'est pas vrai, ça se fait de soi-même. On croit qu'on dit quelque chose, on croit qu'on pense quelque chose, on croit qu'on aime quelqu'un. Mais c'est pas vrai, ça se fait de soi-même. Ça arrive. Mais je sais pas si ça peut... Ça fait que me faire rire ce que j'allais dire. Je sais pas si ça peut aider de dire ça. Parce que ça a besoin d'être réalisé, d'être vu. Sinon, c'est du charabia. Et puis sinon, on est quoi, nous, dans tout ça? Enfin, toi, ça envoie des trucs qui mènent nulle part, quoi. La vraie question, c'est... Pourquoi est-ce que tu poses une question par rapport à l'évolution? Peut-être, toi. Peut-être plutôt d'aller dans ce sens-là.
Peut-être, je me la pose à moi-même, est-ce qu'il y a une même évolution?
Est-ce qu'il y a une évolution?
Est-ce qu'il y a une évolution en moi-même qui peut se faire à travers le temps?
Alors, la question suppose l'existence d'un moi.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a un moi? S'il n'y a pas de moi, l'évolution d'un moi, tant ou pas tant, ne peut pas avoir lieu. Sur l'idée que s'il n'y a pas de moi, ça vaut pas le coup. Des choses comme ça. Mais regarde un animal qui cherche l'endroit où il va se poser pour faire sa petite sieste. Est-ce qu'il se pose la question de savoir à quoi bon ? Il s'installe confortablement là où il a envie d'être.
Mais est-ce qu'il faudrait qu'on retourne à l'état animal, alors? Est-ce que l'état animal...
Retourner, ça veut dire qu'on l'a quitté.
Disons qu'il y a eu... Il y aurait une évolution humaine, je
ne
sais pas.
Nous sommes des mammifères, il ne faut quand même pas oublier.
Oui.
Mais non. Mais c'est quoi le fondement de ta question? C'est quoi le problème avec la vie telle qu'elle se déroule? Au lieu dit Maria, ça prend soin de son alimentation. Est-ce que c'est un problème? Non.
Et si ça ne prenait pas soin de son alimentation?
Est-ce que ce serait un problème?
Est-ce que ce serait un problème? Ce serait un problème peut-être pour son physique, pour son corps?
Peut-être que le corps se porterait moins bien. D'abord, on n'en sait même trop rien. Mais est-ce que ce serait un problème? Parce que peut-être il y a l'idée, si je suis pas en bonne santé, ça va pas aller bien. Mais est-ce que c'est vrai? Au niveau de la conscience pure, non. Pour qui est-ce que c'est vrai que c'est un problème de ne pas être en bonne santé?
Pour ce corps.
Pour le corps? Souviens-toi d'une des fois où tu as eu mal. Le corps, il s'en moque de la douleur. Enfin, il s'en moque. Il a une attitude antalgique. Il prend soin de lui-même. Il critique pas la douleur. Il n'a pas d'idée à propos de la douleur, de la bonne santé, de la maladie, le corps. Il prend ce qui vient comme ça. Mais par contre, il apparaît une idée. Ah! Mais ce que tu veux derrière, quoi. Une sorte de refus de ce qu'on appelle la mauvaise santé. Une mal-être physique. Une indisposition. Appelle moi que tu veux. Une douleur. Une maladie. Et c'est pas la maladie qui pose un problème, c'est pas la douleur physique qui pose un problème, c'est le refus de cette chose-là, de ce qui apparaît, c'est le refus de la sensation telle qu'elle est, c'est le refus de la maladie. C'est l'idée que ce serait mieux sans, qui nous empêche complètement de savourer pleinement la douleur ou la maladie.
C'est pas les mêmes sensations quand même.
Non.
Et alors, même si tu enlèves l'idée de refuser d'avoir mal au ventre, tu vis.
Il y a mal au ventre.
Tu sais que c'est pas le même état d'être que quand tu vas bien et que tu sautes. T'as une énergie de fou, quoi. Tu te poses pas la question si tu peux faire les choses parce que t'as mal au ventre. Tu es libre de ce mal au ventre, même si c'est un refus, la sensation, l'état général est différent, et bon, les sensations aussi.
Et est-ce que ça enlève quelque chose au bonheur que l'on est ? Intéressant, qui a besoin d'être vu, c'est vraiment être avec la douleur. Il n'y a que par cette voie-là que ça peut se montrer, se dévoiler à un moment donné à un autre. Enfin, c'est des mots, mais à partir du moment où on est avec la sensation douloureuse dans le ventre, puisque tu parles mal au ventre, tu as la chance peut s'offrir de voir que c'est que du bonheur.
Oui, de faire un, enfin, qui n'est pas un refus, de faire un avec ce qui arrive. Mais du bonheur, qu'est-ce que tu entends par bonheur ? C'est que du bonheur.
Étonnement, émerveillement, amusement, joie, rire. De la douleur, d'avoir mal. C'est complètement possible. Ah, ça casse un peu les schémas mentaux, je suis d'accord.
Non, mais si demain, on a tu es tordu de douleur et que tu as un mal de tête pas possible, tu vas rigoler.
Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois.
Non, mais depuis que tu es... passé de l'autre côté.
Déjà avant.
Non, mais avant.
Déjà avant.
Déjà avant.
Déjà avant.
Alors, tu...
Ah ouais.
Tu es rigolo.
Oui. Oui.
Ton état, enfin, ta joie... Ou ton...
Ça peut, c'est...
pas altéré par...
C'est pas... Ah oui, évidemment. Ce que je suis ne peut pas être altéré par ce qui arrive.
Mais tu le vis.
Oui, à un certain moment, oui.
La différence, c'est que tu le vis.
Oui.
Il faut faire l'expérience de cela pour...
Oui. Mais si tu penses que c'est pas possible...
Non.
Ça va pas aider à ce que l'expérience apparaisse. C'est ça que je veux souligner. Et à partir du moment où tu es avec... Bah, c'est possible que ça vienne. D'une façon générale, on a tellement tendance à penser automatiquement la douleur, c'est pas bien, la douleur, il n'en faut pas, la douleur, faut la soigner, la douleur, ça m'empêche de vivre et d'être heureuse, etc., que forcément, ça devient une réalité.
Oui, mais tu peux pas juste faire les mêmes choses si tu as mal à la tête,
mais bien sûr.
Et que tu dois donner une conférence et que tu n'as pas les idées claires, tu peux pas donner ta conférence.
Oui.
C'est vrai.
Le monde ne s'écoulera pas. Ça change rien. Et d'abord, tu ne sais pas si tu ne pourras pas la donner. Tu n'en sais rien. C'est une idée, ça. J'y arriverai pas. J'aurai pas les idées. Oui. J'aurai pas les idées claires. Peut-être la conférence sera complètement différente de d'habitude. C'est la meilleure de toutes. Oui. Tu n'en sais rien. Parce que quand tu as mal à la tête, le mental ne tourne pas pareil. Et donc, tu as pas, les idées ne vont pas venir pareil. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Et peut-être que si je m'étais juste à ce qui est là, et ben la conférence, elle va être empreinte de cette présence. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais si tu es dans l'idée que c'est pas possible...
Non, mais sur le moment, si tu n'arrives pas à travailler, que tu as une décision à prendre.
Tu as déjà pris une décision dans la vie, alors toi.
Voilà, mais tu peux dire non, même si c'est pas toi, ça dit oui, ça dit non.
Et oui, avec ou sans mal de tête.
Sans mal de tête, t'es clair en ce que tu dois faire, est-ce que tu te sens capable de faire.
Admettons.
C'est la différence.
Oui, admettons.
Une clarté et une cohérence.
Je suis pas sûr que les gens qui ont pas mal à la tête soient forcément plus cohérents que ceux qui ont mal à la tête. Je sais pas.
Peut-être que ceux qui ont mal à la tête sont un peu moins clairs.
Mais est-ce qu'ils font des choix plus mauvais quand ils qu'on choisisse? On ne peut pas savoir tout ça. C'est des idées. Ce sont juste des croyances. C'est-à-dire, ça croit que si ça a mal à la tête, ça ne peut pas faire les bons choix, ça ne peut pas faire une conférence, ça ne peut pas vivre pleinement, ça, etc. C'est-à-dire qu'il y a prise, il y a saisie des pensées, il y a identification aux pensées liées au mal de tête.
Justement, je voudrais revenir au vécu. Tu es plié en deux. Demain, tu donnes une conférence, non ? Tu dois décider aujourd'hui si tu es plié en deux, c'est un vécu. Je parle pas de l'idée, je parle du vécu.
Oui, tout bien.
C'est le vécu qui te soumet plus la décision de faire ou de ne pas faire.
Oui, mais c'est quelque chose qui va apparaître.
Ouais.
Ça va apparaître, j'annule, ou ça va apparaître, j'annule pas. Mmh. Il n'y en a pas un qui est bien, l'autre qui est mal. Il n'y en a pas un qui... Il n'y a pas besoin d'avoir à choisir, à faire le bon choix. Le choix va se faire et il n'y a pas pu y avoir autre chose que celui-là qui s'est fait. Tout cela semble basé sur l'idée d'une responsabilité. Je suis responsable de ce qui va se passer ou pas se passer. Enfin, sensations. Mais quand les étiquettes bon, mauvais sont tombées, tu restes avec l'idée que la douleur est mauvaise.
Non, pas mauvaise. La douleur peut être douloureuse.
Mais bien sûr.
Avoir des états qui sont des états confus, c'est un fait.
Oui.
C'est pas un jugement, c'est un fait.
Oui.
Par rapport à d'autres états que tu as pu vivre, c'est dans le passé, de joie, sans objet, avec objet, c'est pas les mêmes sensations.
Oui.
Et ce qui est drôle, c'est quand tu es dans un état de présence, de unité relative, et ben t'es dans un état de bonheur, de joie, t'as des sensations agréables.
Non.
D'ailleurs, toi-même, tu avais dit la dernière fois, je ne reviendrai pas à avant. Parce que tout est beauté. Cette vision de voir les choses beauté... procure par conséquent.
Non, ce que je voulais dire, ce que j'ai dit l'autre fois, ce que je répète maintenant, c'est que tout apparaît sur un fond de paix, de joie, de tranquillité, de bonheur, d'amour, etc., qui est plus ou moins conscientisé. Il est toujours conscient, mais qui est plus ou moins conscientisé. J'ai pas d'autre mot. Pour tout le monde, tout le temps. La différence, c'est que quand on est pris par ses croyances, ses pensées, ce fond, il est tellement pas conscientisé que c'est comme s'il n'existait pas. Et que quand on est plus pris par, beaucoup moins pris, ou plus pris par ses pensées, en particulier par la pensée moi, ce fond, il est beaucoup plus conscientisé. Et plus ou moins, hein, plus ou moins fort aussi. Et en tout cas, à tout moment, vouf, il se manifeste. Enfin, il se manifeste, il est tout le temps là, mais il est plus fortement conscientisé. Quelle horreur, c'est bon, mais j'en ai pas d'autre. Tu vois ? Et la douleur, comme la sensation plaisante, comme la confusion, comme n'importe quoi qui puisse arriver, apparaît sur ce fond. Et ne modifie en rien ce fond. Éventuellement, la vive, enfin la vie, c'est-à-dire que même si c'est une douleur, même si c'est de la confusion, tout d'un coup, oh là là, quelle confusion, puis tu éclates de rire. Mais ça reste confus. Et l'expérience de la confusion, tu fais l'expérience de la confusion. Et en ce sens-là, c'est que du bonheur, parce que c'est que une expérience. Et tu fais l'expérience de la douleur, tu fais l'expérience du plaisir. Tu fais l'expérience de la clarté d'esprit, tu fais l'expérience de l'amour. Mais c'est tout la même chose. Enfin, c'est tout la même chose. À chaque fois, c'est une expérience différente, mais toujours. Qui vient toujours s'inscrire sur ce fond. Et ça, c'est que du bonheur. Alors que. D'accord. Dans ce que tu disais, c'était. J'ai vis des hauts et des bas, de temps en temps, ça va bien, de temps en temps, ça va mal. C'est-à-dire que, en fait, de temps en temps, tu touches ce fond. De joie, de bonheur, et donc tu dis ça va bien, puis quand il n'est pas conscientisé, ça va pas. Et alors la douleur ou la confusion donne l'impression qu'on n'est plus en contact avec ce fond, qu'on n'est plus ce fond. Et donc, c'est que ça va pas. Et donc, il faut trouver le fond. Mais il y a une erreur, c'est que c'est pas le même plan.
Je suis d'accord, mais c'est bien beau de le savoir. Quand tu es dedans, tu vois tout ça.
Ouais.
D'accord, et quand tu n'es pas dedans, à ce moment-là, le discours ne peut pas être théorique, parce qu'on s'en fout
bien
de
sûr.
Théorique, de dire le plan est là, oui, on le sait, mais alors...
Mais d'où tu viens que tout d'un coup tu dis, oui, je suis d'accord, j'ai compris.
Parce que quand tu dis, je fais l'expérience de la douleur, de pas la douleur...
La confusion.
Le moi, c'est comme désidentifié. C'est comme si tu me ramènes à ne plus être ce moi. Et là, je vois bien qu'effectivement, tout ce qui se vit est l'expérience de cela. Donc, c'est vrai que de la joie.
Donc, et c'est connu.
Donc,
c'est connu.
Donc, c'est connu.
C'est quelque chose que tu connais, tu sais de quoi je parle.
Oui, oui, très bien. C'est évident.
C'est évident.
Même quand tu...
C'est-à-dire que, ou bien il y a mécanisme de saisie, identification à l'expérience, et il y a souffrance-plaisir, ou bien il n'y a pas de saisie, pas d'identification, ce qui est connu, évident, et il n'y a plus de souffrance. Quelle que soit l'expérience. Exact.
D'après toi, c'est la conscience qui donne le bonheur ou c'est toi qui expérimentes sur la conscience le bonheur ?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle conscience, mais je dirais la conscience est bonheur. Ce qui est conscience est bonheur, est la première manifestation de ce qui est.
C'est pas toi qui fais l'expérience du bonheur, la conscience apparemment n'a pas d'identification.
Alors, on va partir depuis le départ. Il y a ce qui est. Ce qui est inconnaissable.
C'est ça.
Donc, avant tout.
Ni bonheur ni rien.
Avant.
D'accord.
Donc, avant le bonheur, avant même la conscience. Que l'on peut simplement. On peut simplement en avoir une aperception, pas une perception, ça ne peut pas être perçu, mais une aperception. C'est-à-dire, par exemple, il se passe quelque chose. Je parle, vous entendez le son de ma voix. Vous êtes conscient du son de ma voix. Vous êtes conscient du fait d'être conscient du son de ma voix. Mais qu'est-ce qui est conscient du fait que l'on est conscient d'être conscient ? Là, le mental n'y suit pas. Il n'a pas accès. D'accord ? C'est avant. C'est ailleurs. D'accord ? Là, il n'y a pas de concept possible.
C'est ça, il n'y a ni bonheur ni rien.
Là, il y a rien. Y a...
Oui, je suis d'accord.
On peut... Mais ce n'est pas non plus l'absence de bonheur. Ce n'est pas non plus l'absence de quelque chose. C'est l'absence de l'absence et l'absence de la présence.
Parce que le bonheur, la joie, etc., c'est toi qui l'expérience parce qu'il y a fusion avec la conscience.
Alors, c'est l'expérience du bonheur est forcément une expérience. Donc, ensuite, il y a manifestation. Et ce qui est se manifeste en tant que tout ce qui est, tout ce qui existe, et d'abord en tant que conscience, amour, paix, joie, bonheur, etc. Qui ne se connaissent pas forcément en tant que tels. Qui s'expérimentent à travers les expériences. On ne peut jamais expérimenter, expérimenter le bonheur, expérimenter l'amour, c'est quelque chose de l'ordre de l'impossible, et pourtant on expérimente le bonheur et l'amour, mais en fait on en expérimente une manifestation, hein. C'est un après-coup. C'est un après-coup.
Et qui expérimente le bonheur?
On pourrait dire ce qui est, on pourrait dire la conscience, c'est la même chose. Enfin, à ce niveau-là, c'est la même chose.
La conscience n'a pas de bonheur, n'a pas plus de bonheur que de malheur, que de n'importe quoi. Et c'est son expérience de fusion avec qui fait qu'en réalité, il y a un retour vers soi.
Mais c'est quoi le soi, ta définition?
Le soi, c'est la conscience. Soit parce que
dans ta définition,
mais apparemment la conscience apparemment est neutre, et c'est parce qu'on expérimente, oui, la conscience qu'il y a à ce moment-là la joie, le bonheur, etc.
Oh. Personnellement, je le perçois pas comme ça. Personnellement, la conscience, la joie, l'amour, le bonheur, la sérénité, tout ça, ce sont des synonymes. Ce sont les milliers de facettes du même diamant.
Oui, absolument.
Il n'y a pas de différence.
Le malheur, le bonheur, etc.
Ah, mais attention, mais ça, ce sont des qualités qui n'ont pas de contraire à ce niveau-là. Il y a conscience, mais il n'y a pas inconscient. Il ne peut pas y avoir inconscience. Il y a joie, il ne peut pas y avoir non-joie. Il y a bonheur, il ne peut pas y avoir non-bonheur. Il y a amour, il ne peut pas y avoir non-amour.
Oui,
l'amour inconditionnel,
on
sort de la dualité. Oui. Hein, d'accord. Oui. Enfin, il y a une dualité verticale et plus horizontale. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas de contraire duel, enfin, existentiel. Et à partir de là, c'est comme s'il y avait une seconde création, entre guillemets. Bon, je ne sais pas si c'est vrai comme ça, mais disons qu'il y aurait d'abord la première manifestation, ce qui est se manifeste en tant que les qualités divines sans contraire.
Oui, mais c'est déjà la manifestation.
C'est déjà de la manifestation.
Oui, c'est ça.
Pour moi, c'est déjà de la manifestation.
Oui, d'accord.
Oui. Et ensuite, en tant que le monde, les expériences, la dualité,
l'existentiel. Ça, c'est un système duel.
Voilà. Et évidemment, c'est ce « je suis », on pourrait dire.
Quand tu dis « il y a le bonheur, il y a chose », c'est parce qu'il y a quelqu'un qui expérimente le bonheur.
C'est pas quelqu'un.
Ben non, mais tu peux employer ce que tu veux, mais en réalité, il n'y a pas ça. Si on regarde bien, c'est pas possible.
Il y a expérience.
Oui, mais dans l'expérience, il faut quelqu'un. La conscience, apparemment, n'a pas.
Non.
N'a pas de. Parce que si on regarde.
Non, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'un quelqu'un pour faire l'expérience de quelque chose, pour qu'une expérience ait lieu et soit vécue.
Ben sinon, tu ne peux pas expérimenter le bonheur ni rien. Même s'il n'y a pas quelqu'un. Si on regarde les écrits du Bouddha, chez les Tibétains, ils disent bon, pour arriver à l'état de Bouddha, c'est qu'il y a. C'est seulement au nirvana, c'est-à-dire à la mort. Sinon, il y a toujours quelque chose, quelqu'un. Sinon, on ne peut pas expérimenter ni le bonheur, ni l'amour, ni rien. Même s'il n'y a plus de moi, il y a toujours un petit quelqu'un.
C'est seulement quand quelqu'un. J'appellerai pas ça à quelqu'un.
Hein?
J'appellerai pas ça à quelqu'un.
Qu'importe le mot que tu lui donnes.
Ah, oui, c'est toujours
un agglomérat.
Il y a quelque chose.
De choses qui expérimentent quelque chose.
Ah, oui, évidemment, il y a quelque chose.
D'accord.
C'est évidemment déjà. Une manifestation de ce qui est. Il faut qu'il y ait une manifestation de ce qui est pour qu'il y ait expérience du bonheur ou du malheur, etc. Évidemment, oui, c'est ça, oui. Il faut qu'il y ait une manifestation.
Donc, c'est plus le moi, oui. Donc moi grossier, mais c'est quand même une partie subtile encore du moi.
Je ne s'appellerai pas forcément cela le moi. Il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas de séparation. puis il n'y a pas d'idée de faire un choix, de penser soi-même, de, etc.
Non, c'est
l'expérience.
Je suis ce qui est.
C'est le je suis, on pourrait dire. Qui n'est pas ce qui est. Pour moi, il y a une très grande différence entre les deux. Il y a ce qui arrive, je suis conscient de ce qui arrive, et je suis conscient d'être conscient, ça c'est je suis. Qui peut se passer de tout objet, sinon de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a, il y a la conscience, il y a la conscience d'être, et il y a conscience avec un C majuscule, conscience présence sans objet à la limite, sinon elle-même. Sinon elle-même. Ça pour moi c'est je suis.
C'est quand même je suis.
Pour moi ça c'est je suis. Maintenant, c'est des mots. Hein. Ouais. Bien sûr que si. Quand tu me dis, ah oui, je comprends, c'est bien comme ça, l'expérience, les vécus au sein d'eux, évidemment que tu dis, c'est là. Quoi d'autre? C'est ça, je suis. Ne croyez pas que vous avez quoi que ce soit à apprendre. Vous êtes ce que vous cherchez. Vous ne pouvez pas ne pas l'être et vous ne pouvez pas ne pas le connaître autant que ça peut être connu.
Non, mais on n'est pas forcément conscient.
Oui.
Non,
voilà. Mais c'est tout.
Ben oui, c'est pas mal.
C'est simplement parce qu'il y a des mouvements de prise, d'identification à ce qui arrive, à ce qui arrive dans la manifestation. On tombe amoureux de soi-même, on tombe amoureux de la manifestation, de ce qui apparaît dans la champ de la conscience. C'est tout. Alors, pouf, ça s'en saisit.
Mais ça arrive.
C'est une façon de dire. Hein.
Ça arrive.
Ça arrive.
Ou ça n'arrive pas. Tu peux pas contrôler ces mouvements.
Évidemment.
Deux, pour faire expérience d'eux.
Donc, puisque tu peux pas les contrôler, c'est les grandes vacances. Il n'y a plus rien à faire de spécifique.
Non.
Ce sont les grandes vacances. Enfin libre.
Mais moi, je veux aller au soleil, je veux pas aller à la montagne. Moi, je veux le soleil.
Mais à partir du moment où tu dis je veux aller au soleil et pas aller à la montagne, ça colle à cette pensée. C'est fini. C'est pris, quoi. C'est pris. Circuler.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que quand tu fais donc l'expérience d'identification, tu perds forcément cette présence.
L'expérience.
Parce que tu es identifié, tu ne peux pas être et identifié.
Mais qu'est-ce qui est identifié? Qu'est-ce qui est identifié?
Je m'identifie.
C'est quoi ce « je » qui prétend s'identifier? C'est quoi qui s'identifie alors, si ce n'est pas une pensée qui s'identifie? C'est pas possible.
Un refus.
C'est pas un refus qui s'identifie, c'est pas possible.
Je sais pas, il y a une perte de vision, il y a...
Oui.
C'est le regard qui...
Ose finir ta phrase, c'est le regard qui...
Ouais. Il est plus détaché, ouvert. Il y a quelque chose qui le prend et c'est ça.
Un peu comme si tout d'un coup le regard, au lieu d'avoir un point de vue large, se contractait, se focalisait sur quelque chose. Ça peut être une façon de voir les choses. Est-ce que le regard, il trouve à y redire? Est-ce qu'il y a quelque chose contre le regard?
Les fils de ce
que j'ai. Les fils.
Ça le coupe. C'est la pensée, ensuite, qui... c'est comme s'il se perdait, même s'il ne peut pas se perdre. C'est la pensée qui prend le relais du regard.
Mais la pensée, elle apparaît au sein du regard.
Oui, mais il n'y a plus suffisamment de distance, parfois, pour distinguer que
c'est... Ça colle, c'est-à-dire que la conscience et la pensée s'agglomèrent. Ils font plus qu'un. Mais c'est intéressant l'image qu'il prend. C'est exactement ça. On parle de perspective non duelle.
Ouais.
C'est une perspective que l'on a ou que l'on n'a pas.
Oui, c'est, il y a la croyance aussi que quand on est identifié, on croit. Être dans la dualité, en fait. Parce qu'on voit autre chose que ce qui est. Alors qu'en fait, on ne fait toujours qu'un. Et on ne croit pas à cela, puisque on vit des...
C'est oublié.
C'est oublié. C'est pas oublié dans la mémoire, mais c'est plus là.
Identification. Ah.
De retrouver cet état. Pour l'instant, c'est un état puisqu'il est passager. C'est très différent de faire expérience d'une identification quand tu es dans la présence. Parce que là, c'est très, ça peut être très rigolo, effectivement, mais...
En tant que présence, il n'y a pas identification à l'expérience.
Tu peux voir les mouvements. Tu peux voir les mouvements sans être pris au jeu.
Bien sûr, c'est très différent. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait identification à certains moments ?
Mais ça n'a plus rien à voir.
Et alors ?
Ça n'a plus rien à voir.
Oui, mais manger une pomme et manger une cerise, c'est complètement différent.
Manger une pomme et manger une pierre, oui, c'est différent.
Une pierre, tu auras du mal à mastiquer. À mon avis.
Ou une pomme pourrie, c'est différent.
C'est pareil, c'est automatiquement rejeté.
Pas au même niveau, mais c'est comme ce que je te disais. Est-ce que tu as choisi
parce qu'il y a un jugement.
Tu choisirais de revenir il y a un an ?
Mais je peux pas.
Bah d'accord, mais c'est... non.
Ça m'appartient
pas. Ce que tu vis aujourd'hui est plus lié, plus je sais pas.
Oui.
Et ben voilà.
Cependant, dès l'instant où tu critiques l'expérience, quelle qu'elle soit, tu es forcément prise par le jeu. Encore plus. S'il y a une chose qu'on peut faire, c'est regarder ce qui se passe. Tu n'as pas la possibilité de te désidentifier en permanence de tout ce qui se passe. Tu n'as peut-être même pas la possibilité de regarder de toi-même. Cependant, plus il est répété « regarde », plus le regard s'installe, semble-t-il. Alors, ce que je fais sans cesse, c'est de répéter « regarde ». C'est pas moi qui le fais, ça peut pas faire autrement, ça sait pas faire autre chose. Le discret, tu sais. Et ce que je te propose, c'est de regarder. Il y a des moments où il y a identification, où la pensée est crue, il y a expérience sans recul, on va dire. De douleur, de mal-être. Ça peut être regardé. Ah tiens, j'expérimente un mal-être. Et puis, souvent vient se rajouter, et je me suis encore fait prendre, il y en a marre, et je voudrais être ailleurs, et je voudrais que ce soit autrement. Et ça, ça peut aussi être regardé. Parce que si déjà tu enlèves la couche du dessous, du dessus, celle d'en dessous devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus supportable. Et aussi beaucoup plus facile à regarder. Parce que tant qu'on s'interdit d'aller mal ou d'être pris, mais c'est l'enfer.
Oui, tout à fait, mais ça ne suffit pas. Je trouve que ce qui est vraiment radical, après ce que j'ai expérimenté, c'est quand il y a incompréhension mentale. La pensée est amenée à une incompréhension. Il y a comme une annulation, et là tu vis qu'il n'y a plus de ce moi, tu le vis. Il y a une incompréhension.
Peut-être chez toi,
c'est de se ramener à cette pensée moi.
D'être amené.
Oui.
Ok. Et ben alors.
Parce que là, tout de suite, cette présence réapparaît. C'est ça qui est fou. C'est que en quelques secondes,
Voilà, demi seconde après, tu peux être libre, tout à fait, dès l'instant où c'est lui, c'est vrai. Oui.
C'est fou.
Bah oui. Alors regarde ce qu'il y a à moi.
Au départ, le regard, c'est les yeux fermés ou les yeux ouverts.
Ouf. Peu importe, c'est pas. Bien sûr, ça peut passer par le regard physique déjà. Est-ce qu'il y a un moi? Est-ce que vous avez déjà vu, vous avez déjà croisé dans la rue? Évidemment non.
Quelle est la définition du regard?
Oh là là. On va dire que c'est une connaissance non pensée. C'est consciente de ce qui se passe. On va essayer de mettre des mots dessus. est consciente d'elle-même.
Donc c'est par le regard que vision ou chose comme ça. C'est un principe tout simplement. Regarder, ça veut dire écouter. Ça veut dire...
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour être écouté, être avec, soit conscient, constate.
C'est la même chose, mais ça ne n'identifie pas ni à l'oreille ni aux yeux.
Oui, tout à fait.
Je suis d'accord. Parce que le regard, dans ce qui est employé souvent, c'est quelque chose qui fait avec les yeux. Donc c'est avec un sens.
Oui, je l'ai dit plusieurs fois, ça, on peut remplacer le mot regard par autre chose.
Oui. Mais on tombera toujours sur un sens.
Être avec, c'est plus tout à fait un sens.
Mais il y a toujours quelqu'un.
Constater. Ah oui. Mais c'est pas forcément. Attention. Oui et non. Parce que
dans le livre, tu as marqué regarder et sourire. Donc en réalité,
c'est. ER. Regarder ER.
Regarder, oui. Mais même
c'est pas quelqu'un qui regarde.
Oui, mais dans regarder, c'est quand même encore par une attitude.
Oui, c'est des mots. On ne peut pas s'arrêter au mot. On ne peut pas s'arrêter au mot. Il n'y en a aucun qui décrira la chose. Mais, pensez, mais tout de suite, dire « Ah, mais on parle de regarder, donc il y a quelqu'un. » Non, c'est le regard qui regarde.
Oui, mais n'importe où, il ne peut pas y avoir regard s'il n'y a pas identification de quelque chose. Ce n'est pas possible.
Non, s'il n'y a pas manifestation.
Oui, c'est pareil.
Non. Dans une fille. Non, il n'y a pas besoin d'identification.
Donc, si on regarde bien, la réalisation n'est possible que dans un état de mort. Sinon, c'est une approche. Mais il y a toujours une identification. Il y a toujours un... Même cet agglomérat d'atomes...
C'est les deux à la fois. Il peut y avoir les deux à la fois. Il peut y avoir les deux à la fois.
D'après le Bouddha, ce n'est pas possible. Le nirvana n'est possible que dans la mort.
La mort mentale ou la mort...
La mort physique, la mort de choses. Sinon, c'est pas possible. Sinon, il y a toujours...
C'est pas ce que disait
Même s'il y a plus de moi, il y a toujours cet agglomérat d'atomes qui a quand même une personnalité ou quelque chose, une
fonction. Ah oui. Ça oui, mais il peut très bien y avoir... Ah oui. Oui, je pense que je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir... Il reste toujours une partie identifiée au corps, sinon le corps ne peut pas survivre. Parce qu'il ne répond pas à l'appel de son nom, la faim n'est pas perçue, la soif n'est pas perçue. Donc en quelques jours, il meurt.
Cet agglomérat d'atomes est tenu par une forme d'énergie.
Il y a une partie, forcément, incarnée dans cet organisme pour qu'il survive. Sinon, ça ne survit pas. Ça, oui. Ouais, ça, c'est, je pense.
Donc, s'il était complètement désincarné, il n'est pas possible de vivre.
Ouais.
Donc la réalisation n'est possible que lorsqu'il y a des incarnations globales.
Mais ça, c'est un pas, je pense, il n'y a pas forcément. C'est un après-coup. C'est un après-coup. Et ça, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas antinomique. Il peut y avoir réalisation complète et encore un tout petit soupçon d'identification qui est maintenu, on ne sait pas pourquoi, mais qui se volatilise n'importe quand. Il y a un soupçon d'identification, mais il n'y a pas identification. Pas d'identification, on pourrait dire. Il y a un soupçon un soupçon de conscience qui reste en contact avec la manifestation, enfin avec ce corps. Mais cela, c'est pas là, c'est pareil. Mais pour que la vie du corps continue, il faut effectivement qu'il y ait au moins un soupçon de quelque chose qui reste là dans ce corps. Parler d'identification, effectivement. Mais de toute façon, ce qui apparaît n'est pas séparé de ce qui est. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît est ce qui est, complètement.
La projection
c'est une apparition au sein de ce qui est. C'est pas une projection dehors d'eux. C'est une apparition au sein d'eux. Ça n'en est pas séparé du tout.
Quand tu parlais du corps, d'existence du corps physique, je le voyais grâce à ce qu'on appellerait le corps de gloire. Est-ce que c'est possible?
C'en est une manifestation.
La manifestation
éthérique.
La manifestation du corps physique
subtile
existe grâce à ce corps de gloire que on pressent.
Bah, je ne sais pas ce que tu appelles corps de gloire, ce qui est se manifeste en tant que...
C'est la facilité d'avoir des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, de digérer, tout ça.
Oui, mais ce qui est se manifeste en tant que...
Je ne sais pas faire, que je laisse faire. Ce qu'on appelle dans beaucoup de religions, corps de gloire, corps de lumière...
Oui, mais tous ces trucs...
Les personnes qui sont dans l'au-delà sont de retrouver leur corps de gloire, quoi.
Ça, c'est encore un monde. Ça, c'est encore un monde de rêve. C'est encore un monde de rêve.
Parce que quand tu parlais de l'œil tout à l'heure, je me suis souvenu quand j'étais petite fille, à l'école, bon, Victor Hugo, et l'œil était dans la tombe et regardait carrément. Bon. Et c'est vrai que étant gamine, quand tu reçois ça, j'ai ressenti quelque chose qui arrivait là, qui m'a cloué sur mon banc. Et quelque chose de très lumineux, très... c'est pas quelque chose qui jugeait, ni rien, tu vois. Donc, après, plusieurs années, parce que c'est quand même quelques années, ça, c'est quelque chose qui vieillit pas quand même, qui me raccroche à quelque part, tu vois.
Et là, c'est une expérience.
Oui, c'est une expérience.
C'est une manifestation.
Mais, qui reste...
dont tu gardes la mémoire.
Qui n'est pas
anodine.
Alors que j'ai des expériences, mais bon, c'est complètement oublié.
J'imagine.
Heureusement.
Le dire, parce que c'est grave, je sais pas.
Si on prend son exemple, ça la suit depuis qu'elle a fait son expérience de l'œil dans la tombe, ça la suit.
C'est une mémoire, c'est pas une mémoire mentale, peut-être c'est simplement quelque chose que je sais pas.
Ça demeure une expérience.
Vraiment ?
Et en tant qu'expérience, ce n'est jamais qu'une expérience. Quelles que soient les expériences qu'on fait, ce sont des expériences. Il n'est pas nécessaire de s'y attacher, d'en faire autre chose que ce que c'est, une expérience.
Juste voir que je me suis souvenu de ça, puis pour c'est terminé.
Oui, il y a ça qui est arrivé.
Voilà.
Okay. La réalisation ne peut arriver que maintenant. Elle n'est pas liée aux expériences. Elle n'est pas liée au passé, elle n'est pas liée au futur, elle n'est pas liée au temps.
Parce que quand on parlait de présence, et puis des fois on est pas présent en nous, on a l'impression qu'on est happé, par exemple, quand je me sens présente, je sens que tout ça vibre dans le corps, tout est bien, ça va, ça bouge. Bon. Et puis des fois, je fais autre chose, et puis alors là, il n'y a plus rien, c'est comme si mon corps n'existait pas. Est-ce que c'est à ce moment-là que je ne suis pas présente que ou c'est normal de
c'est ce qui arrive.
Ne pas sentir qu'on est dans notre corps.
C'est ce qui arrive.
Tiens, je ne suis pas là.
C'est seulement ce qui arrive, mais la conscience que tu en as. ne te raccroche à aucune expérience. On ne peut pas le dire autrement. Penser qu'une expérience est meilleure qu'une autre ou m'approche de la réalisation plus qu'une autre, c'est juste une pensée.
Okay.
On est libre de tout ça. Je ne sais pas si tu le ressens, mais du coup, si tu abandonnes toute expérience passée, tu es forcément ramené ici, à ce qui se passe là maintenant.
C'est vrai que quand je te parlais, là, c'est de nous parler.
Okay. Et ne t'accroche pas à ce qui vient de se passer. C'est déjà passé.
C'est, enfin, quand tu parlais du regard, c'est comme quelque chose qui veille, ouais, qui veillerait en moi. C'est difficile à moi. Comme une bienveillance, quelque chose qui veille toujours là. Ça veille toujours.
La manière dont tu le tournes, il y a le regard qui veille sur toi.
Oui. C'est pas moi.
Il y a moi qui n'ai pas le regard. J'en doute fort. J'entends que ça te fait du bien de sentir que tu es aimé par un regard aimant. Divin, etc. C'est une expérience agréable. J'entends que ça te porte depuis des années et que c'est que du bonheur, que c'est très bon, etc. Il n'y a rien de mal à ça. Ce qui pourrait être intéressant à souligner, c'est que dans l'image que tu nous donnes là, il y a le regard et il y a toi, il y a deux.
Oui, c'est comme un superviseur, un peu.
En réalité, il n'y a pas deux. Comment serait-ce de vivre que tu es le regard qui regarde Jacqueline avec amour. Et d'être en même temps Jacqueline qui ressent ce regard. Il y a moins de monde. D'être parce qu'il y a identification.
Oui, comment tu peux percevoir qu'on t'a mis dedans ?
Ne cherche pas. C'est trop d'efforts. C'est. Plutôt regarde ce qui t'est offert. T'es identifié. T'es identifié. Regarde le fait d'être identifié. Regarde. Comment c'est l'identification ? Qu'est-ce qui est en train de se manifester ? Et surtout, regarde la critique quasi constante, automatique, qui est souvent pas vue. Il faudrait pas. Il faudrait pas qu'il y ait cette identification. Il y a un refus de l'identification, j'ai l'impression.
Ah bah c'est évident, c'est tellement extraordinaire.
Mais tu es identifié à ce refus !
Mais je sais.
Mais tu ne peux pas arrêter d'être identifié. Tu ne peux que le regarder.
Non, c'est pas possible.
Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ne pas être avec ce refus ? Pourquoi ne pas l'accueillir ?
Parce que ça prive de l'expérience.
Mais fais l'expérience du refus.
Ah bah oui.
C'est celle-là qui t'est proposée.
C'est une bonne idée. Mais ça. Ça bloque toujours.
Oui. Où ? À quel moment ça bloque ? Qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Ça, comment tu veux que ça bouge ?
C'est pas forcément. C'est pas forcément un événement ou une pensée qui fait que ça bloque.
Il y en a plein. C'est ça que tu veux dire ?
Non. C'est comme si. Comme si aujourd'hui tu es dans cette perception des choses et demain tu seras dans totalement une autre perception des choses. Ça t'appartient pas.
Oui.
Ce qui fait que tu es passé de l'un à l'autre, t'en as pas.
Ça s'est passé, mais au moment où tu prends conscience, ah tiens, je suis prise,
ouais.
Là il y a le regard. Et là il y a la possibilité de voir qu'est-ce qui fait que tu es prise. Et je te proposerais de regarder, ça refuse, et le refus est complètement cautionné. Il n'est pas question d'arrêter de refuser. J'exagère un peu, mais quelque chose comme ça.
Il y a refus du refus.
Non, il y a volonté du refus. Enfin, peut-être qu'il y a refus du refus, mais là, je vois plutôt une sorte de volonté de refuser. Je ne veux plus être identifié. Cette pensée-là, j'y crois dur comme fer.
Non, je crois pas.
Enfin.
Il y a le refus d'être en refus. Donc,
en plus.
La volonté. Ouais. Il y a la volonté est contraire.
Eh bien, alors regarde le fait de refuser et le refus. C'est encore un refus. C'est une expérience comme une autre en même temps. On doit toujours remonter jusqu'à la pensée racine, enfin jusqu'à la pensée racine, là où jusqu'à au sommet de la pyramide, tu vois. Quelle est la pensée qui tient à celle d'en dessous, quoi. On ne peut pas commencer en bas, ça ne sert à rien, on n'y arrivera pas.
Ouais, je ne sais pas, je me demande si c'est vraiment une pensée qui fait tomber le château de...
Dans mon expérience, ouais. C'est de voir une pensée, les pensées pour ce qu'elles sont, ouais.
Parce que j'ai l'impression que des fois ça passe plus, mais voilà, c'est...
Oui, peut-être que la pensée s'effondre sans que tu le vois. Quand tu changes d'état, forcément, t'as arrêté de croire ce à quoi tu croyais juste avant. Même si c'est pas arrêter de croire en sens d'une démarche, au sens de oubli de la croyance. Après, il y a besoin de prendre un exemple précis, sinon ouais, on peut juste tourner en rond. C'est vraiment prendre un exemple précis, regarder, mais ah, qu'est-ce qui se passe là précisément, si tu veux. Oui, non?
Crispation finalement des peurs avec même si on ne voit pas une pensée, il peut y avoir des crispations qui font que l'identification, c'est pareil, l'identification, crispation, peur.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi.
Un changement d'état, il peut y avoir une peur, en fait, pas forcément une pensée.
La peur est fondée aussi sur les pensées. La peur, d'où vient-elle? À moins une peur imminente, d'un danger imminent, c'est une pensée future déjà. Il faut qu'une pensée future. Sans idée de futur, il ne peut pas y avoir de peur de quelque chose qui va arriver plus tard. Et parfois, il y a même souvent une pensée de passé, parce que quelque chose qui s'est déjà produit, il ne pourrait pas que ça recommence. Et ces pensées sont crues. Je dis parfois... C'est aussi lié à des pensées de passé, parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé, et je ne voudrais pas que ça recommence. Donc j'ai peur qu'il arrive dans le futur quelque chose qui s'est passé dans le passé. Passé de passé, pensée de futur. Et c'est passé qui crée une impression de peur. Il peut y en avoir d'autres. Si je me trompe, ça va être catastrophique. Il faut l'idée d'un jeu qui choisit, qui peut se tromper. S'il n'y a pas l'idée d'un moi, la pensée, ah, je peux me tromper, peut apparaître, mais elle ne peut pas être crue s'il n'y a pas de moi. Donc c'est une autre pensée qui peut créer de la peur.
Justement, la peur que ça revienne en février-mars, il y a toujours un bouleversement physique, énergétique, tout ce que tu veux.
Tu tiens le bon bout, il ne reste plus qu'une semaine.
Bon, j'ai pas dit avril. J'en sais rien. J'ai pas les dates exactes. Mais en tout cas, c'est... Pourtant, il y a... je ne me soucie pas forcément de me dire cette année, ça va venir ou pas. C'est saisonnier.
Une pensée n'a pas besoin d'être conscientisée pour avoir de l'effet.
Ben voilà. Donc, ça vient d'où ça ?
Un effet biologique.
Elle a un effet de fait. Ben, c'est connu ça, c'était, je sais plus, après la guerre, on a fait une étude comme ça, je crois que c'était aux États-Unis, ils ont donné une classe très médiocre à un prof en lui disant ils sont très bons, au niveau de la classe, ça monte. Et ils ont donné une classe de bons élèves à un prof en lui disant ils sont nuls, au niveau de la classe, ça a baissé. Le simple fait que le prof pensait quelque chose, ça agit sur la totalité de la classe. Les enfants ne savaient pas qu'on lui avait dit ça, et lui, il ne savait pas que cette pensée agissait comme ça. Mais il a une attitude qui... etc.
Oui. Et celle-là, elle a été entendue par le professeur.
Mais il s'en est souvenu trois semaines plus tard, un an après, six mois plus tard. Il n'est pas besoin de... Et les enfants, ils en ont connaissance de cette pensée ? Les enfants, ils en ont pas connaissance de la pensée ? Il y a ça, mais il y a plein d'autres choses.
Oui, bah alors dans ce cas-là, tu constates les effets, et puis voilà.
Mais de nouveau, tu es en lutte contre les effets. De nouveau, tu es en lutte contre ce qui apparaît.
Ah oui.
Mais tant que tu n'auras pas regardé le refus, tu vas souffrir.
Il y aura toujours mois de février, mois de mars.
C'est pas ce qui arrive qui fait souffrir. C'est le refus de ce qui arrive.
Non, ça me dérange pas trop ce qui se passe. C'est qu'il y a, j'ai pas ce regard. J'ai pas ce regard. Il y a une tempête, si tu veux.
Donc ça te dérange de ne pas avoir ce regard ?
Oui, de ne pas le voir. Avec plus de détachement et donc de...
Ça te dérange de perturbation. Ça te dérange de ne pas voir les choses avec plus de détachement, moins de perturbation. Mais c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Tu ne vois pas les choses avec plus de recul. C'est ce qui arrive. Et cela te dérange. C'est aussi ce qui arrive.
Ouais, je peux rien faire, je comprends pas d'où ça vient.
Oui, tu peux rien faire, tu constates, tu peux rien faire, tu comprends pas d'où ça vient, tu constates que tu comprends pas d'où ça vient, c'est aussi ce qui arrive. Constate, ça comprend pas. Constate, ça peut rien faire. Constate, c'est dérangé. Constate, ça n'a pas de recul. C'est comment ? Plus clair. Il y a encore chose qui coince.
Ouais, c'est comme ça. Ça se... Il manque un truc.
Mais qu'est-ce qui apparaît ? Qu'est-ce qui est là ? Maintenant tout de suite, pas dans cette phase, là maintenant tout de suite, si c'est pas complètement clair, qu'est-ce que c'est qui est présent en toi et pas complètement, qui fait qu'il y a pas que la paix n'est pas là présente, la paix, la tranquillité, peu importe.
Certaines lourdeurs.
Est-ce qu'il y a une pensée associée? Non. Ok, donc on constate qu'il y a de la lourdeur. Comment elle se manifeste dans le corps, la lourdeur? Quelles sensations physiques?
C'est comme...
Ces sensations, elles sont franchement désagréables. En elles-mêmes. En elles-mêmes, juste la sensation.
Ben, je préfère quand ça s'éclaircit comme maintenant. C'est que ben, je respire mieux. C'est comme si tu respirais plutôt que d'inspirer.
Tu es en train de me dire que la douleur s'en va? Comment ça se fait?
Ben, en mettant une attention.
Laquelle?
De regarder.
Me regarder?
De regarder, de la ressentir, de la
ok. Enlever. Donc, il y a de la lourdeur, et si tu la regardes, elle s'estompe.
Oui.
Et c'est un drame? Ça vaut le coup d'en faire une histoire? Ça t'empêche d'être heureuse? Tranquille? Non.
Ça, je connais bien le principe. Des fois, je l'applique, ça ne fonctionne pas. Malgré...
Ouais, oui.
Et puis, ouais.
Bien, je m'occupe, moi aussi.
Ouais, mais je comprends. J'ai les mêmes...
Ben oui, ben des fois ça fonctionne pas. Mais tu peux constater que ça fonctionne pas. C'est sans fin. Tu prends ce qui apparaît, tu le regardes. Toi, dans ce que tu dis, ça fonctionne pas des fois. Et ça s'arrête là. Sous-entendu, j'y arrive pas, je devrais, il faudrait que, etc. Non, ça fonctionne pas. Regarde, ça fonctionne pas. De temps en temps, ça fonctionne pas. Ben oui, de temps en temps, ça fonctionne pas. Et alors, quoi?
Oui, je dois me dire qu'il y a un truc que je ne fais pas.
Wow. Oui, il y a un truc là. Ça, c'est une pensée, ça. T'es pas obligé d'être cru. Il y a quelque chose que je dois faire de travers. C'est moi. Ah, là, on tombe sur le moi.
Non, mais de toute façon, c'est vraiment hein, la croyance dans le moi.
La croyance dans le moi est probablement à l'origine de tous ces trucs, ouais. Mais le fondement de la croyance dans le moi ne voit pas la mort de tous ces trucs d'un coup. Il y en a encore plein qui ont besoin d'être regardés après coup. Hein.
Après coup?
Oui, après que le moi se soit effondré, l'idée d'un moi se soit effondré.
Oui,
bien sûr, oui.
Ça continue.
Il y a plein de mécanismes qui se jouent tellement automatiquement tout seuls qu'ils continuent à se jouer. Simplement, comme il n'y a plus la croyance en un moi, quand ils sont vus, on dit oh tiens, ouais. Oh tiens, oui, pouf, ça s'effondre. Généralement, ça va beaucoup plus vite, c'est de l'ordre de quelques secondes. C'est la différence. Mais il y a plein de mécanismes qui continuent à se jouer. Puis il y en a, ils dérangent tellement peu que de toute façon ils vont continuer à jouer parce que. Ah oui, bah oui. Et alors? qu'il y a la vie qui se manifeste comme ça. Mais si tu veux, il n'y a pas de... de négociation, on dirait. Ça ne négocie pas avec ce qui arrive. Ça arrive, c'est comme ça. Tu vois, autrefois, ça c'est un truc qui est tombé tout seul sans que je fasse rien. Autrefois, un hiver comme ça, mais moi j'aurais pas su, j'en aurais eu marre de la pluie et tout. Mais là, je suis absolument pas affecté par le fait qu'il pleuve. Alors que ça fait des mois et des mois et tout. Au contraire, quand ça pleut fort, j'adore. Il y a plein de moments où j'aime, même si c'est pluvieux, on se fait mouiller, tout à l'heure en descendant en bas, c'est marrant, je me fais mouiller. Tu vois, c'est... Avant, il y aurait eu une réaction. C'est-à-dire qu'il y a... Ah oui, bah c'est comme ça. Ah bah oui, bah c'est comme ça. Ah bah oui, il y a des trucs qui se jouent encore de la personnalité du père. Bon oui, mais ils se jouent encore. Et alors ? Il n'y a pas, tu vois, c'est pas... Bah oui, il n'y a pas de problème avec.
Si dans les 5 minutes, il y avait un problème, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, il n'y a pas de problème.
C'est quelque chose qui n'est pas vu.
Hein ?
Il y a quelque chose qui n'est pas vu. Dans ce cas-là, le regard vient là. Il vient regarder. Parce que là, ça vient déranger. Et à partir du moment où ça vient déranger, t'es interpellé. Et ce qui se passe aussi, c'est quand au début, qu'il n'y a pas de moi. Bon, moi, j'ai beaucoup regardé aussi avant. Peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. Mais non, parce que d'autres aussi, comme Cartelé ou Balanchetti, qui n'avaient jamais regardé avant, ça aurait tombé dessus. Le travail s'est fait après. C'est-à-dire que le regard s'installe après coup. Si chez eux, c'est installé après coup. Je ne sais pas comment c'est pour tout le monde, mais... En tout cas, chez moi, le regard, dès qu'il y a vraiment dérangement, alors il y a le regard qui apparaît. Et le regard se porte sur ce qui dérange.
Oui, le regard est là, mais il y a le regard plus, il faudrait que ce soit autrement. C'est la différence.
Alors, la différence,
donc,
c'est que...
Identifié, il y a le regard ou l'observation et la pensée qui dit plus.
Ça peut aussi apparaître ici, il faudrait que ce soit différent. Mais... Ça dure pas. Parce que c'est vu.
Parce que c'est même vu. Si c'est vu, ben ça peut durer. Oui, tu vois
c'est pas vu. On a quelque chose d'autre qui n'est pas vu. Il y a une autre pensée qui n'est pas vue. Si ça se maintient, c'est quelque chose qui n'est pas vu. Lorsque c'est Jean-Marc Montel qui disait ça souvent. Lorsque c'est parfaitement vu, ça s'effondre. C'est vrai.
Ce regard-là, il ne suffit pas de voir, c'est un regard. C'est comme la grâce. Hein, voilà.
Oui, tu ne peux pas.
Voilà.
Tu ne peux pas. Il n'y a pas un moi qui peut regarder. Tu ne peux pas être regard. Tu ne peux pas devenir le regard. Tu ne peux pas développer le regard. Tu ne peux pas faire que le regard voit ce qu'il y a à voir. De ton point de vue.
Il n'y a rien à faire.
Ça aussi, c'est trop.
Ouais.
Et surtout, voir, je voudrais tellement pouvoir. Ouais, parce que de la rage.
Ah ben, quand tu es à deux doigts de ce que tu vois, et puis tu défends les vagues, et puis tu défends
là. Qu'est-ce qui te fait sourire là tout de suite?
C'est que oui, c'est ça.
Quoi?
C'est vrai ce que tu dis.
Tu voudrais tellement voir. Mais regarde là, ça, cette pensée-là. Mmh. Je veux avoir le pouvoir de voir. Mmh. C'est un enfer. C'est un enfer, ça. Comment serait la vie sans vouloir avoir le pouvoir de voir? Plein d'autres pouvoirs d'ailleurs, probablement.
Ce serait.
Ouais, et tu peux imaginer lâcher le pouvoir, le vouloir de vouloir le pouvoir.
La maîtrise, non?
De vouloir la maîtrise, de vouloir le pouvoir.
Bah oui, tout à fait.
Oh, c'est déjà une bonne nouvelle. Ah ben, il n'y a plus qu'un. Regarde-le.
Je ne veux pas ce pouvoir, puisque je sais bien qu'il...
Et en même temps, ça veut.
Oui.
Donc, il n'y a qu'à le regarder.
Ça veut, quand ça n'est pas... c'est pas grave.
Ah ouais, quand j'ai le pouvoir, je le veux pas, mais quand j'ai pas, je le veux. Oui.
Non, c'est parce que quand il y a cette identification, il n'y a plus de pouvoir. Oui, il n'y a plus de. C'est pas le pouvoir, il n'y a plus de. C'est pas un pouvoir personnel, justement.
Mais il n'y a jamais eu le pouvoir. Le regard n'a pas de pouvoir. C'est pas lui qui a un pouvoir. On pourrait dire il est le pouvoir. Maintenant.
Mentalement, il y a un bug quelque part.
C'est très bien.
Il y a toujours cette incompréhension mentalement entre quand on roule et quand.
Ça comprend pas, ben oui, ça comprend pas. Est-ce qu'il y a aussi je veux comprendre?
Non, c'est pas ça.
Ben alors, juste ça comprend pas. Ben oui, ça comprend pas. Et alors? Ta valeur ne dépend pas de la compréhension de ce qui arrive.
Non, mais comme je te dis, j'ai l'impression de subir. D'être privé alors que c'est là d'être privé de ce du je suis.
Donc tu es un individu séparé qui de temps en temps est connecté à je suis et de temps en temps n'est pas connecté à je suis. Là, c'est une vision. Qu'est-ce que tu es, au fond? Qu'es-tu? Dans ton expérience.
Comment est-ce que...
Donc là, du mental, voilà. Je suis.
Je suis.
Et le regard, c'est... Je sais pas.
Non. Si tu es je suis, comment pourrais-tu cesser d'être je suis à certains moments ?
C'est ce que je te dis, je ne sais pas comment je peux.
Peut-être que c'est une fausse impression.
Quoi donc ?
D'être séparé de je suis.
Ah oui, évidemment. Mais elle est très. Elle paraît très réelle. Enfin, mais...
Oui. Mais est-ce que tu es obligé d'y croire pour autant, si tu sais que c'est pas la vérité, même si ça paraît très réel?
Se dire je n'y crois pas, ça change rien du tout. J'y crois, je ne crois pas. C'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau plus de la prise.
Mais y croire quand on sait que c'est pas vrai, je pense que si, ça change quand même quelque chose. Constater, ah tiens, je crois à quelque chose que je sais ne pas être vrai.
Non, mais si je te dis je crois que je suis cette présence, c'est aussi. C'est aussi une croyance.
Donc tout à l'heure, quand on disait que tu arrivais sur un fond de paix, de joie, d'amour, et tu me dis ouais, je sais. C'était juste une croyance alors.
Parce que je l'ai peut-être senti à ce moment-là. Oui, j'y crois. Sauf que quand c'est vécu, et quand c'est cru, c'est pas pareil. Je peux très bien faire un bourrage de crâne, à certains moments, je suis ce que je suis. Ça sera identique de me dire.
Oui, c'est vrai. Et donc, tu es prise, tu as l'impression que tu n'es pas je suis, mais que tu es que moi dans le monde. C'est ton vécu.
J'observe des états différents.
Qu'est-ce qu'il observe ? Moi qui ne prie pas les choses, qui observe ?
Non.
Ah. Donc je suis coupé de je suis, mais il y a quelque chose qui observe, et c'est pas ce moi qui est coupé de je suis.
Quand il y a une distance, ça revient.
se sent en lutte contre. Presque là tout de suite, presque comme un enfant qui boude, tu vois. Cette lutte a besoin d'être vue.
Pardon ?
C'est la lutte, la lutte a besoin d'être vue. Le fait d'être en lutte comme ça a besoin d'être vue.